Vous écoutez, on lit pour vous.
Manu ne fera plus de camping. Un texte de Patrick Lagacé publié le 11 décembre 2025 dans la presse. Emmanuel Boucher, surnommé Manu, était en situation d'itinérance depuis environ 5 ans. Il a finalement obtenu un logement cette semaine. Sur mon téléphone, le nom du député solidaire Guillaume Cliche-Rivard. J'attendais le rappel. Je dis « l'heure » parce qu'il s'agissait d'une conférence téléphonique. J'ai répondu et Cliche-Rivard n'a dit ni allô ni bonjour. Manu est chez lui. Sur l'autre ligne, Manu. Et oui, Manu était chez lui, dans son nouveau chez lui. Manu a ajouté « c'est pour ça qu'il y a de l'écho ». Son studio d'une pièce était quasiment vide. Il venait de signer son bail. Chez lui, après 5 ans dans la rue. La veille, il dormait sur un divan chez un ami. Depuis des mois, Emmanuel Boucher habitait dans une tente au Bois et Vimont, le long de la rue Notre-Dame. Je vous ai parlé de Manu il y a quelques semaines pour dénoncer une bêtise. Il y a un mur de paperasse entre les itinérants et un logement. Une muraille de Chine de paperasse exigée par les organismes de l'écosystème du logement social, subventionné et de transition. Muraille de Chine, quand tu vis dans la rue, c'est possible que tu n'aies pas tes T4, tes déclarations de revenus, ta carte d'assurance maladie, ton extrait de naissance. Mais dans l'écosystème du logement subventionné, c'est encore trop souvent exigé. La mission Old Brewery a même une équipe qui va dans les tentes pour aider les itinérants à obtenir ces documents. Bref, longue histoire que je vous fais courte. Manu a finalement eu un logement avec un organisme communautaire. Au bout du fil, avec le député et le journaliste, Manu était intarissable. J'ai de la misère à y croire. Il y en a eu des démarches depuis 5 ans. Je suis habitué de me dire « je vais y croire quand je vais être dedans ». J'ai souvent été déçu. Là, j'y crois. J'ai de la misère à y croire, mais j'y crois. Encore récemment, après la chronique, il s'est fait demander une preuve de citoyenneté pour être considéré pour un logement subventionné. J'ai passé 16 ans à la DPJ, Chris. Le système me connaît. Il aurait fallu que je paie 35 $ je pense, pour ma déclaration de naissance. Ils ont tout ça. Le système le sait que je suis né ici. Emmanuel Boucher dit Manu. J'ai cité Manu disant « Chris », mais j'en ai biffé quelques-uns. Sachez que Manu est en « ta » contre le système et il ponctue ses diatribes de mots d'église. Guillaume Cliche-Rivard a demandé « As-tu un message pour le système après 50 batailles ?» C'est un torrent de mots qui a jailli dans l'écho du studio vide de Manu. « Allume, baptême !» Pas normal que je me sois rendu là. Il est où le filet social? Ça m'écœure quand ils disent « la crise de l'itinérance, c'est juste le résultat de tout le reste. T'es pas censé te rendre là. Ils peuvent pas rendre ça plus facile. Mon T4, vous voulez mon T4? C'est pas normal qu'on me demande des papiers que le gouvernement a lui-même quand je suis dans une tente, quand tout ce que j'ai tient dans un sac à dos. » « Calice, parlez-vous, c'est le gouvernement !» Émile Fortier de la mission Old Brewery a une idée pour le système. Plutôt que d'exiger 100% de la paperasse à 100% des itinérants, vous leur donnez des logements rapidement s'ils sont parrainés par un organisme communautaire reconnu, HLM, loyer subventionné, appart de transition, qu'importe. Et un peu comme l'impôt le fait dans ses vérifications fiscales, vous vérifiez la paperasse de, disons, 10% des itinérants relogés, une fois qu'ils ont un toit. Idée gratuite pour la Société d'habitation du Québec qui gouverne une grande partie de l'archipel bureaucratique du logement subventionné et pour les sociétés municipales d'habitation qui exécutent les ordres de la SHQ. L'ironie, c'est que maintenant qu'il a un toit, Manu va pouvoir travailler plus. Il avait déjà environ 15 heures par semaine chez Cactus. Maintenant que l'essentiel de ses journées ne sera plus consacré à la survie, il va pouvoir travailler davantage. As-tu vidé ta tente, Manu? Ça se vide tout seul, périodiquement, m'a-t-il répondu. Si t'es pas là une journée, tu reviens, tu t'es fait voler. J'y pense plus. Manu s'est mis à jaser sur son ancienne vie qu'il sent encore dans ses os. Sur Notre-Dame, dans ma tente, l'humidité se coupait au couteau. Le givre, il était à l'intérieur. J'ose pas imaginer. Moi, je le vivais, puis mes chums sont encore dehors. Guillaume Cliche-Rivard a demandé à Manu où il se voyait dans 6 mois. Je pense que je vais essayer le camping. Le député et moi avons retenu notre souffle, surpris par l'image dans une tente de la CEPAC. 2 secondes ont passé avant que Manu ajoute « Ben non, le camping, plus jamais ». Manu a raccroché, il avait des choses à faire. Guillaume Cliche-Rivard est resté au bout du fil. Nous étions tous les deux contents pour Manu. Mais on a pensé et dit la même chose, en des mots différents, avant de se quitter. Ça n'a pas de sens, tous ces humains qui gèlent dehors par ce froid polaire, qui sont dehors tout court. C'était Manu ne fera plus de camping, un texte de Patrick Lagacé publié le 11 décembre 2025 dans la presse.
Des déserts grouillants de vie, les incroyables stratégies d'adaptation face aux conditions extrêmes. Un texte de la rédaction de Science et Vie, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle de France, paru le 23 octobre 2025 dans Science et Vie. Lézards capables de faire remonter l'eau par capillarité, plantes cailloux cachées sous terre, crapauds attendant la pluie des années, les déserts constituent des laboratoires spectaculaires de l'évolution. L'exposition « Déserts » du Muséum national d'histoire naturelle nous fait voyager dans ces écosystèmes extrêmes où animaux et végétaux déploient des trésors d'ingéniosité de l'Arctique à l'Atacama. Une plongée scientifique et ludique dans l'art de l'adaptation à découvrir jusqu'au 19 avril 2026 à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Capter et conserver l'eau. L'accès à l'eau est l'enjeu primordial de toute forme de vie dans le désert. Et si certaines plantes sont capables de faire plonger très profondément leurs racines, ce n'est pas nécessairement la stratégie optimale. Des réseaux racinaires latéraux et ramifiés, très étendus dans la couche la plus superficielle du sol, sont aussi très efficaces pour capter l'eau en milieu aride. Citation : Il faut pouvoir capter l'eau de la rosée ou du brouillard. Fin de citation, développe Denis Larpin, responsable scientifique des collections végétales tropicales des jardins botaniques du Muséum, l'un des commissaires scientifiques de l'exposition « Déserts ». Citation, « Cela peut aussi se faire par les tiges et les feuilles. » Fin de citation, via les stomates, des pores permettant des échanges gazeux entre l'air et la plante ou encore des poils spécialisés. Dans le règne animal, le moloch, ou lézard à cornes, parvient à faire remonter l'eau par capillarité. Citation, dès que le sol est assez humide, il va baisser la tête et faire remonter l'eau via ses pattes vers la bouche. Fin de citation, détaille son collègue Anthony Herrel, directeur de recherche CNRS, spécialiste en anatomie comparée, morphologie fonctionnelle et biologie de l'évolution au Muséum. Certains coléoptères optent pour une position similaire en haut des dunes pour récolter le brouillard condensé sur leur abdomen avant de le laisser s'égoutter vers leur bouche. Une fois l'eau captée, il faut la stocker, spécialité des cactus. Mais pas seulement. Citation, on retrouve des procédés proches dans le monde animal, notamment avec des réserves de graisse qui vont permettre de produire de l'eau métabolique, ajoute Anthony Herrel. C'est le cas des grands mammifères, comme les chameaux, mais aussi, par exemple, du lézard fouette-queue. Fin de citation. Une queue justement remplie de gras, transformée au besoin en eau par le métabolisme du saurien. Citation : Les herbivores vont naturellement puiser l'eau directement dans la nourriture, notamment dans des graines stockées en sous-sol qui donneront une source d'eau en période de sécheresse. Fin de citation, explique le commissaire de l'exposition des airs. Stratégie utilisée notamment par le rat kangourou qui réhydrate ses graines dans son terrier humide avant de les consommer. Résister aux températures extrêmes. Pour les mammifères, la fourrure constitue une protection ultime en milieu polaire. Celle de l'ours blanc, qui va jusque sous ses pattes, retient la chaleur corporelle via des poils creux remplis d'air qui vont retenir les rayonnements infrarouges émis par la peau de l'animal. En dessous, sa patte noire, et oui, absorbe la chaleur du soleil, alors qu'une couche de graisse pouvant atteindre 10 cm complète la protection. Ainsi, entre l'air ambiant et l'intérieur du pelage, l'écart de température est de plusieurs dizaines de degrés sur une quinzaine de centimètres de fourrure. Une capacité de rétention des émissions infrarouges qu'on retrouve chez les renards ou le lièvre arctique. À l'inverse, dans le Sahara, la fourmi argentée va dissiper sa chaleur corporelle sous forme de rayonnement infrarouge grâce à ses soies particulières. Une méthode qui lui permet de sortir aux heures chaudes quand les prédateurs sont au repos pour se nourrir. Mais seulement quelques minutes, sans quoi elle meurt. L'enfouissement est une autre solution. Citation : Certaines plantes sont en partie enfouies dans le sol pour se protéger des températures extrêmes. C'est le cas des plantes cailloux, comme les lithopes présentées dans l'exposition. Fin de citation, détaille le botaniste Denis Larpin. Les spécimens présentés ne laissent émerger que leurs petites feuilles, dotées à leur extrémité d'un tissu transparent qui laisse passer la lumière jusqu'au chloroplaste situé sous la surface du sol. La photosynthèse peut alors se faire dans de meilleures conditions, c'est-à-dire, étonnement, à l'abri direct du soleil. Chez les animaux, la vipère des sables ou des insectes s'enfouissent également pour perdre quelques degrés aux périodes les plus chaudes. S'adapter à une autre temporalité. Dans le désert, tout est question de timing pour trouver la période la plus propice à la recherche de nourriture, généralement la nuit, ou à la reproduction. Citation : Certains animaux vont utiliser une stratégie d'évitement des conditions extrêmes pour n'être actifs que lors de conditions favorables, quand la pluie arrive. Fin de citation, explique Anthony Herrel. C'est le cas du crapaud pied en bêche qui creuse dans le sol et attend dans un cocon toute l'année. Citation : Quand il pleut enfin dans le désert d'Arizona, c'est une véritable explosion de vie. Des milliers de ces grenouilles vont sortir, se reproduire dans les mares temporaires et dérouler tout leur cycle de vie en 2 semaines. Les têtards naissent, se métamorphosent, puis les petits creusent le sol et attendent la prochaine pluie. 1, parfois 2 ans plus tard. Fin de citation. Il en va de même pour des plantes au cycle de vie spécifique, comme le décrit Denis Larpin. Citation. Comme les animaux qui peuvent rester au repos jusqu'au retour de périodes plus fraîches ou pluvieuses, certaines plantes dites éphémères vivent sous forme de graines dans le sol en attendant les pluies des mois ou des années. Lorsque ça arrive, la germination se fait très rapidement. Fin de citation, ajoute le botaniste qui montre ensuite une rose de Jéricho. À première vue, une boule sèche et morte. Mais même morte et déshydratée, elle abrite des graines vivantes. À l'arrivée de la pluie, les rameaux de la plante se déploient de façon mécanique et les graines peuvent germer. Un nouveau cycle commence. C'était, des déserts grouillants de vie, les incroyables stratégies d'adaptation face aux conditions extrêmes. Un texte de la rédaction de Science et Vie, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle de France, paru le 23 octobre 2025 dans Science et Vie.
Quand le pickleball redonne vie à une église de quartier, un texte de Rebecca Pépin, publié le 8 janvier 2026 dans Le Nouvelliste. Le nouveau projet sportif mené par l'organisme Carpe Diem représente un investissement de 80 000 $ pour les 6 nouveaux terrains. L'histoire de ce projet est née d'une inquiétude bien concrète. celle d'éviter que l'un des bâtiments emblématiques du district de Carmel tombe dans l'oubli. Pendant des années, l'église Saint-Sacrement, située sur le boulevard Saint-Louis, a été un lieu central pour la communauté, accueillant messes, rencontres et événements sociaux. Pour contrer une éventuelle démolition, Carpe Diem en a fait l'acquisition en 2020, grâce à l'appui financier de la Fondation Maison Carpe Diem. Ce n'est pas juste une question de religion. Le bâtiment est au cœur du quartier. C'est un lieu pour se retrouver et socialiser. Même s'il n'y a plus de messe et que le tout ne fait pas très église, cela répond totalement aux besoins des gens ici. Nicole Poirier, directrice de l'organisme Carpe Diem. Avant d'investir dans le bâtiment, une phase pilote a été menée dans le sous-sol de l'église où deux terrains de pickleball avaient été aménagés. Les résultats ont rapidement démontré le potentiel du projet. Carpe Diem a donc réuni une vingtaine de bénévoles pour donner vie à l'idée de convertir l'église en véritable centre de pickleball. Le projet, qui représente un investissement de 80 000 dollars, n'a pas seulement une dimension ludique, il répond aussi à des enjeux de santé publique bien documentés. Au-delà du jeu, le projet favorise le mouvement et le lien social, deux éléments essentiels pour prévenir le vieillissement, y compris cognitif. Tous les prérequis sont reconnus par la recherche, mais leur mise en œuvre reste souvent un défi. Ici, nous avons trouvé une solution concrète, explique Mme Poirier. L'église, avec ses vitraux ancestraux et son architecture majestueuse, reste une œuvre d'art et un symbole fondamental. Les sportifs eux-mêmes ne cachent pas leur émerveillement. On est enchantés. C'est assez éclectique comme combinaison. Une église avec un terrain de pickleball, mais c'est parfait. Cela représente bien un endroit qui reste invitant pour tous, sous une autre forme. Les plafonds sont hauts, ce qui permet de jouer à un niveau plus élevé tout en profitant de l'atmosphère unique du lieu. Sophie Normandin, joueuse dans la Ligue Carpe Diem. Cette dimension esthétique n'est pas qu'un simple détail. Elle transforme l'expérience du sport pour de nombreux pratiquants. Les anciens confessionnaux ont même été conservés et servent désormais de vestiaire. Le plaisir avant la performance. L'inclusivité est aussi au cœur du projet. Contrairement à certains sports plus compétitifs, le pickleball se joue à tous les niveaux. Débutants et joueurs avancés se côtoient sur les mêmes terrains, dans une atmosphère conviviale et bienveillante. Ce qui est beau avec ce projet, c'est son côté intergénérationnel. J'aimerais vraiment qu'on en parle davantage au Québec et que chaque municipalité puisse offrir un espace comme celui-là, où tout le monde a sa place, souligne Louise Saint-Cyr, bénévole à Carpe Diem. Le projet va même au-delà de la pratique sportive. Il permettra aux personnes atteintes de troubles cognitifs, comme l'Alzheimer, de s'intégrer, de venir observer, de participer à leur manière. Ce sont des gens qui vivent le moment présent, et les voir ici enrichit toute expérience, conclut Mme Poirier. Pour les curieux qui désirent essayer l'expérience de ce nouvel endroit, des essais à 5 $ par personne seront offerts les 17 et 18 janvier prochains. L'église Saint-Sacrement incarne désormais un exemple inspirant de revitalisation urbaine et sociale. Grâce au pickleball, elle retrouve son rôle historique, celui d'un lieu de rencontre, de partage et de vie communautaire. C'était « Quand le pickleball redonne vie à une église de quartier », un texte de Rebecca Pépin, publié le 8 janvier 2026 dans le Nouvelliste.
Voici le troisième texte du dossier spécial de la presse consacré à l'intelligence artificielle sous le titre « Salutaire ou catastrophique, l'intelligence artificielle ?» Ce troisième texte est titré « 5 façons de tendre vers le mieux ». Texte signé Philippe Mercure et publié dans la presse du 11 janvier 2026. L'intelligence artificielle nous réserve-t-elle des miracles ou des catastrophes? Probablement un peu des deux. Mais il existe des actions que nous pouvons prendre dès maintenant pour faire pencher la balance du bon côté. En voici 5 recommandées par Gillian Hatfield, une sommité en intelligence artificielle qui est titulaire d'une chaire CIFOR de l'Institut Vecteur et professeure à l'Université Johns Hopkins à Baltimore. Première, réglementer l'intelligence artificielle. Vous cherchez des conseils juridiques? Aujourd'hui, seuls les avocats et les conseillers juridiques sont autorisés à vous en donner. Ils doivent être diplômés et appartenir à un ordre professionnel. Ils peuvent être sanctionnés s'ils font mal leur travail. Gillen Hatfield y voit un inconvénient. Cela contribue à freiner l'accès à la justice. L'intelligence artificielle pourrait améliorer les choses. Mais pour l'instant, tout ce qui s'offre à vous est de consulter ChatGPT sans aucune garantie de qualité. Citation: si nous voulons utiliser davantage d'intelligence artificielle pour obtenir des conseils juridiques, il faut un tout nouveau système réglementaire autour de ça, estime la professeure Gillen Hatfield. Nous avons besoin d'un mécanisme qui garantit la confiance, qui teste ce qui sort de l'intelligence artificielle, qui accorde des licences. Fin de citation. Au Québec, on peut penser qu'une telle réglementation pourrait être confiée au Barreau du Québec. Madame Hatfield estime que la même chose doit être faite dans tous les domaines. Elle incite aussi à instaurer une responsabilité juridique autour des agents d'intelligence artificielle qui écrivent du code, effectuent des transactions et agissent sur le monde. Citation: nous n'avons pas encore résolu la question de savoir qui est responsable des actions d'un agent d'intelligence artificielle, souligne-t-elle. J'estime qu'il faut un nouveau régime légal. Les agents doivent posséder une identification. Il doit y avoir une traçabilité. On doit pouvoir remonter jusqu'à l'humain derrière. Fin de citation. Elle compare la situation aux entreprises, des entités considérées comme des personnes morales, avec des obligations. Les entreprises d'IA possèdent ce statut, mais les agents qu'elles créent devraient aussi l'avoir, plaide Gillen Hatfield. Deuxième, adopter l'intelligence artificielle. L'idée ne plaira pas à ceux qui soutiennent qu'on devrait refuser l'IA, mais Gillen Hatfield estime qu'on doit au contraire l'utiliser. Citation: si on veut tirer des bénéfices de l'intelligence artificielle, on doit commencer à l'utiliser, dit-elle, avec une logique implacable. C'est vrai pour les individus, les entreprises, les gouvernements. Fin de citation. Gillen Hatfield nous incite à utiliser l'intelligence artificielle non seulement pour nous amuser à créer de fausses images ou de nouvelles chansons, mais surtout pour nous attaquer à nos vrais problèmes. Mais l'adopter, n'est-ce pas aussi courir le risque que les dangers de l'intelligence artificielle l'emportent sur les bienfaits? La spécialiste nous renvoie au premier point. La régulation et l'adoption, selon elle, vont de pair. Plus les gens adopteront ces outils, plus cela mettra de la pression sur les régulateurs pour l'encadrer. Et plus l'intelligence artificielle sera régulée, plus les gens auront confiance et l'utiliseront. Troisième, briser en partie la boîte noire. On compare souvent l'intelligence artificielle à une boîte noire à cause de sa complexité. Quand vous posez une question à ChatGPT ou à Gemini, il y a tellement de paramètres impliqués qu'il est à peu près impossible de savoir quel chemin a suivi la machine pour vous fournir une réponse. Citation: mais l'intelligence artificielle est une boîte noire pour une autre raison. Avec nos règles actuelles de propriété intellectuelle, tout ce que développent les entreprises privées est considéré comme un secret commercial protégé, dit Gillen Hatfield. Fin de citation. Or, dans ce domaine en particulier, l'opacité est devenue trop grande. La professeure Hatfield fait remarquer que si la plupart d'entre nous sont incapables de construire une voiture, on peut au moins la démonter pour comprendre son fonctionnement. C'est devenu impossible avec l'IA. Même les grandes universités n'ont plus les moyens de reproduire les modèles d'OpenAI, de Google ou de Meta. Citation: je pense que ces technologies sont si complexes et ont des impacts si grands qu'il faut revoir les règles de propriété intellectuelle, dit-elle, fin de citation. Quatrième, réaligner l'IA sur nos institutions sociales. Au sein des entreprises d'intelligence artificielle comme OpenAI, vous trouvez des gens responsables de ce qu'on appelle l'alignement. Leur rôle? Guider le modèle en récompensant ses bonnes réponses et en décourageant celles jugées moins appropriées. Mais selon quels critères ces réponses sont-elles évaluées? Pour l'instant, ces réflexions sont réalisées à l'intérieur des entreprises de façon opaque. Gillian Hatfield estime que cet alignement doit plutôt se faire en fonction des institutions dont se sont dotées nos sociétés, gouvernement, cours de justice, centres de services scolaires et autres. Citation: l'alignement a toujours été un défi fondamental pour l'humain. Comment amener des gens qui agissent naturellement en fonction de leurs propres intérêts à faire ce qui est bien pour le groupe? La réponse à cela, ce sont les institutions, dit-elle. Fin de citation. Autre citation: si on veut introduire ces systèmes d'intelligence artificielle dans nos sociétés, ils doivent, comme les humains et les organisations humaines, être alignés avec les institutions, résume-t-elle. Fin de citation. Cinquième façon: utiliser le marché pour réguler l'intelligence artificielle. Comment s'assurer que les systèmes d'IA n'aident pas les terroristes à fabriquer une bombe? Qu'ils ne fournissent pas des conseils inappropriés à nos adolescents? Qu'ils ne renforcent pas les biais et les stéréotypes? Pour les gouvernements, surveiller tout cela peut rapidement devenir une tâche tentaculaire. C'est pourquoi Gillian Hatfield propose de la confier au marché. J'ai déjà décrit cette idée dans un article précédent. Le principe: obliger les entreprises à faire tester leur système par d'autres entreprises, un peu comme on les oblige à faire vérifier leurs états financiers par des firmes spécialisées. Prenez le risque qu'un agent conversationnel encourage un adolescent à se suicider, illustre Gillian Hatfield. Une entreprise qui a développé des méthodes pour tester et empêcher cela pourrait faire une demande afin d'obtenir une licence du gouvernement et faire ce travail de vérification. Fin de citation. La Californie et l'Ohio travaillent aujourd'hui sur des législations en ce sens. Et c'est la fin de cette troisième et dernière tranche du dossier consacré à l'intelligence artificielle par le journal La Presse, titré « Salutaire ou catastrophique l'IA ». Ce dernier texte, signé Philippe Marcure, est titré « 5 façons de tendre vers le mieux ». Texte publié dans La Presse du 11 janvier 2026.